Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Difficile de le nier, la guerre économique s'installe sur les marchés. Pour y faire face, les États et les entreprises ont besoin de recueillir et d'analyser les meilleurs renseignements économiques. Le sujet est devenu crucial dans une compétition économique mondiale qui se durcit. C'est pourquoi la revue internationale d'intelligence économique y consacre un numéro sobrement intitulé « Le renseignement dans la guerre économique ». Pour en parler, je reçois l'un de ses auteurs, Nicolas Moinet, est professeur d'université en intelligence économique à l'Université de Poitiers. Bonjour Nicolas Moinet.
Bonjour Ali.
Un mot sur cette revue.
Oui, donc c'est une revue, la revue internationale d'intelligence économique, qu'on appelle souvent R2IE. C'est une revue qui existe depuis 2009 qui est pluridisciplinaire et qui, pour la première fois, donc, pour une revue académique, propose de traiter le sujet de la guerre économique et du renseignement.
C'est l'une des rares revues sur l'intelligence économique en France ?
Alors, c'est la seule revue.
C'est la seule.
La France et le monde francophone. Très
d'accord. Ah oui, carrément.
Beaucoup de numéros ont porté sur le Maroc, sur l'Afrique subsaharienne. Donc, elle est effectivement à porter sur la francophonie. Et c'est effectivement la première revue qui parle ouvertement dans le monde académique de guerre économique et de renseignement.
Pluridisciplinaire, ça veut dire ?
Alors, on a à la fois des gestionnaires, des juristes, des sciences de l'information et de la communication.
Des historiens.
Voilà, pour nous, c'est l'objet qui compte, c'est pas la discipline. Vous savez, le disciplinaire, souvent, est un enfermement.
Bon, c'est déjà une belle réussite d'avoir réuni toutes ces disciplines autour de ce concept d'intelligence.
On est content parce que c'est pas évident d'inciter les collègues à écrire dans une revue pluridisciplinaire, ce qui n'est pas toujours très valorisé suivant les domaines. Et je précise que je l'ai donc co-dirigé ce numéro avec Thierry Zimmer et puis Gérald Darbois.
Ouais. Alors j'ai regardé moi l'historique de cette revue-là, hein, qui remonte à 2009 comme vous l'avez dit. C'est la première fois qu'elle utilise le concept de guerre économique. Il était temps donc quand même.
Oui, il était temps. Alors évidemment c'est toujours en filigrane, hein. C'est un peu comme dans la science économique, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette auto-limitation à parler de ce concept qui dérange un peu.
De la part des universitaires, donc des
académiques. De la part des universitaires, à quelques exceptions près, ce qui fait qu'effectivement ceux qui en ont parlé le plus, c'était pas des universitaires, c'était des intellectuels, mais pas des universitaires. Voilà, donc ces choses maintenant faites et il faut continuer. Je sais que les juristes s'y intéressent, les historiens bien sûr. Donc on est en bonne voie.
Ça avance à bonne vitesse d'après vous ou pas ?
Non, ça avance lentement mais sûrement. Donc ce qui est rassurant, c'est le sûrement. Ce qui est un peu embêtant, c'est le lentement. Parce qu'il ne faut pas être trop lent. Parce que les autres, ils avancent aussi. Ils avancent beaucoup plus vite. Donc, effectivement. Mais il faut quand même voir aussi le côté positif.
Voilà. Ouais. Petite parenthèse, vous êtes le seul professeur des universités sur l'intelligence économique. On est d'accord, non ? Moi, je n'en ai pas vu d'autres.
Il y en a un autre qui est d'ailleurs le directeur de la revue d'intelligence économique, qui est Christian Marcon.
Ah, d'accord.
Mais qui est aussi à l'IE de Poitiers. C'est vrai qu'à Poitiers, on a un master, on a une école doctorale, on a une formation doctorale, et on est assez complet dans ce domaine-là. Donc, il y en a quand même d'autres maintenant.
Ouais. Hein. Oui, enfin, mais sur les doigts d'une seule main.
Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, mais,
On est d'accord. C'est quoi la spécificité du renseignement économique ?
Alors. D'abord, peut-être qu'on peut parler du contexte. Le renseignement économique, ça s'inscrit dans la guerre économique. Voilà. Donc la guerre économique, c'est quoi ? C'est en fait une confrontation entre parties. Les parties, ça peut être des entreprises, ça peut être des États, bien sûr, ça peut être les deux ensemble, ça peut être des ONG, qui visent en fait à capter, à maîtriser des ressources, à s'accaparer des richesses, dont l'objectif, c'est l'accroissement de la puissance par l'économie.
Ouais.
Et l'accroissement de la puissance par l'économie, hein, je vais répondre à votre question, mais c'est pour bien situer, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr la limitation des dépendances, c'est la localisation des activités économiques et surtout industrielles, c'est la compétition informationnelle, c'est la projection sur les marchés extérieurs et c'est la prédation économique. Et donc le renseignement économique, il va intervenir sur ces cinq thématiques, mais évidemment, il va intervenir de manière différente avec des acteurs différents. Donc c'est une espèce de nébuleuse, le renseignement économique, qui d'ailleurs, lorsqu'on regarde les ouvrages sur le renseignement, est très peu traité, ou alors en filigrane. Et jusqu'à très récemment, c'était des personnalités un peu hors du commun qui parlaient de ce domaine-là. C'était un peu écarté de l'étude sur le renseignement. Aujourd'hui, ça revient. Et donc, il faut le prendre par rapport à ces cinq thématiques. Et la France a avancé dans le renseignement économique récemment sur les deux dernières, c'est-à-dire la compétition informationnelle et puis la prédation économique. Par contre, sur les trois premières, il y a encore pas mal de travail. On va peut-être y revenir.
Alors, dites-moi, est-ce que le renseignement économique est plus dans, du côté du public, c'est-à-dire les services de renseignement, ou est-ce que c'est un concept qui a été beaucoup plus travaillé, qui a beaucoup plus mûri, du côté, au contraire, du privé et donc de l'entreprise ?
Alors si on regarde effectivement à court terme, on voit surtout les services de renseignement via le prisme de la sécurité économique. Mais lorsqu'on regarde à long terme, notamment les historiens, c'est un des articles assez fabuleux.
Sur les agences commerciales.
C'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert ça, pour le dire. Effectivement, la France, à partir du début du 19e siècle, donc sous le Premier Empire, développe des centaines d'agences commerciales de renseignements commerciaux, dont une est d'ailleurs appartient à Vidoc.
Oui.
Je me permettrai juste en fait une citation parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation à la fin du 19e siècle qui dit quand même la chose suivante, ça mérite de s'y arrêter. Elle dit que l'activité donc exercée par les entreprises de renseignement est licite et estimable.
Ouais.
Et qu'en recueillant les renseignements et en les communiquant, l'agence, donc privée, exerce un métier qui non seulement n'est pas condamnable, mais qui est nécessaire au commerce, dont elle garantit la sécurité, appelle la protection de la loi et celle de la justice. Ça, c'est la Cour de cassation sur des sociétés privées de renseignement.
Fin 19e siècle.
Fin 19e siècle.
Et donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, 21e siècle, c'est pas la même image ?
L'auteur, qui est un historien, dit à la fin, est-ce que l'intelligence économique française n'aurait pas considérablement régressé en un siècle ? Alors, c'est vrai.
Votre avis,
oui. Alors, oui. C'est vrai jusqu'à, on va dire, la parenthèse gaulo-pompidolienne, effectivement, ouais. Où là, ça va revenir. Mais effectivement, ça va régresser. Il faut attendre 1994, donc il y a 30 ans, pour que via le concept d'intelligence économique, parce qu'on ne pouvait pas parler de renseignement économique à l'époque, ça revienne sur le devant de la scène.
Ouais.
Mais il faut vraiment attendre 2017 et en fait le rapport de la délégation parlementaire au renseignement pour remettre le renseignement d'intérêt économique en fait au cœur des services de l'État. Alors, ils en faisaient un peu. Mais c'était pas, il n'y avait pas suffisamment de moyens, c'était pas suffisamment structuré.
Mais là, on est dans les services de l'État. Comparons avec l'entreprise.
Alors, l'entreprise, il y a deux possibilités. Soit elle internalise le renseignement économique. Donc, bien sûr, les grands groupes ont des services d'intelligence économique, ou il y a d'autres terminologies. Mais beaucoup aujourd'hui, il y a une externalisation sur des cabinets.
Oui.
Donc, alors ça, c'est une des réussites françaises. Il y a un marché privé de l'information qui s'est développé depuis les années 90. Et d'ailleurs, le leader français est aussi le leader européen.
Ouais. C'était un souhait du rapport Marthe en 1994, d'ailleurs. Donc là, c'est exaucé.
Voilà.
Ouais. Là, c'est exaucé.
Alors, c'est exaucé. Quand on compare avec les chiffres de nos compétiteurs, notamment anglo-américains, il y a encore un peu de travail. Mais non, c'est quand même très, très positif.
Ouais. Voilà. Même méthodologie publique-privée sur l'approche du renseignement éco ou pas ?
Alors, les méthodologies, oui, avec la limite quand même de la couleur, de ce qu'on appelle la couleur de l'information, le blanc, le gris, le noir.
Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les mêmes méthodologies pour le blanc et le gris. C'est-à-dire l'information, ce qu'on appelle ouverte.
Ouais, blanche.
L'information semi-fermée,
grise.
Qu'on va recueillir par des témoignages, des entretiens, des conversations. Évidemment, sur le noir, là, on est dans des domaines totalement différents. Les services spéciaux ont le droit d'utiliser des moyens spéciaux, donc d'aller vers l'information noire, c'est-à-dire par exemple par interception ou autre. Ils peuvent le faire. Les sociétés privées, normalement, n'ont pas le droit de le faire.
Ouais.
Donc là, il y a quand même une grande différence. Et si elles le font, on n'est plus dans l'intelligence économique, on est dans la barbouzerie, comme on l'appelle. Mais ça reste quand même infime. La plupart des sociétés font de l'information blanche et grise.
Donc, renseignement économique, concept habituel dans l'entreprise pour vous, mature ou pas ?
Ah, ça dépend des entreprises. Et ça ne se voit pas comme ça. En fait, il faut regarder, et pour répondre aussi à votre question précédente, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent le transfert des personnes, des services de l'État vers les entreprises qui fait la différence. Vous avez beaucoup d'anciens, des GSI, des GSE, des RSD, qui font une deuxième carrière dans l'entreprise et qui, là, finalement, apportent les méthodologies, la culture surtout, parce que ça, c'est important, la culture du renseignement, dans ces organisations. Donc, il faut voir entreprise par entreprise. Mais on a des entreprises qui, historiquement, même depuis plus d'un siècle, sont extrêmement bien outillées.
Ouais. Il y a un article sur la défense, l'influence, etc.
Les entreprises de la BITD, en tout cas les grandes entreprises.
La base industrielle de technologie
voilà.
Donc, de défense.
Donc, effectivement, en général, sont plutôt bien outillées.
Ouais. Mais retard sur les autres.
Ah bah ça dépend quels autres. Mais alors, retard sur les autres, c'est une chose. Et aussi, retard, on va dire, dans la coordination entre le public et le privé.
Ah oui.
Quand on a face à nous les Américains ou les Chinois, ce n'est pas simplement une question d'acteurs, c'est une question de coordination, c'est-à-dire de synergie public-privé, de masse critique.
Ouais.
Et là, c'est vrai que de ce point de vue-là, on est encore un peu en retard.
Ouais, c'est ce que pointe le rapport de Roude Bézieux au président de la République sur la sécurité économique.
Exactement. Geoffroy Roude Bézieux, l'ancien patron du MEDEF, qui d'ailleurs, lorsqu'il est parti, a dit publiquement qu'il regrettait de ne pas avoir assez développé l'influence. Mmh. Là aussi, et on en parle dans la revue, on est en retard. C'est un continuum, renseignement-influence. Faire du renseignement seul, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Si derrière, il n'y a pas une capacité d'action et aujourd'hui une capacité d'influence, le renseignement que vous collectez et que vous donnez en fait, aux politiques ou aux décideurs ne sert pas à grand-chose. Mmh. Donc c'est là encore qu'on est limité en France. Hein. C'est sur la culture, on va dire, des dirigeants.
Passerelle entre votre monde académique et le monde de l'entreprise ?
La passerelle, elle est permanente. On forme des étudiants, par exemple, dans le master de Poitiers, ils sont en apprentissage. Donc, on est en permanence au contact des entreprises. Beaucoup de thèses se font maintenant en partenariat avec les entreprises. Nous-mêmes, on... Voilà. Donc, le problème aujourd'hui, c'est plus la triangulation entreprise, université et État. C'est là où il y a encore, en France, on aime bien l'entre-soi. Donc, et puis, il manque toujours un chef d'orchestre. Hein. C'est-à-dire que même si beaucoup a été fait, on n'a pas retrouvé le haut responsable à l'intelligence économique qu'on avait eu dans les années 2004.
D'Alain Juillet.
Alain Juillet, notamment. Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas Boinet, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.